Tout de suite, des infos. Des infos.
Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Fobodioulasso. Radio Oméga, le journal. Titre de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
À la une de l'actualité, on en sait un peu plus sur les écritures françaises et arabes découvertes hier dans certains établissements privés et publics de la ville de Banfoura. Le ministère en charge de l'éducation nationale annonce que les messages libellés en langue arabe appellent à la fermeture des établissements non islamiques et qu'il s'agit de menaces contre le système éducatif burkinabé. 5 millions de francs CFA comme salaire mensuel du Premier ministre et plus de 2 millions pour les membres du gouvernement. Le secrétaire général du gouvernement confirme l'information et donne les raisons de cette revalorisation des ministres de la transition. Situation à Percois, un mois déjà sans nouvelles des 8 mineurs bloqués dans la mine souterraine de zinc de Percois. L'équipe de sauvegarde de la mine de Percois a effectué hier une plongée pour constater la présence de l'ultime chambre de refuge qui pourrait abriter les 8 mineurs portés disparus. Et puis notre invité est le professeur Lucie Nébier, cardiologue. Avec elle, il sera question de santé, notamment l'hypertension artérielle. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Insécurité au Burkina Faso, 17 civils ont été tués samedi dernier dans une attaque de présumés terroristes à Madjouari dans la Kompienga à l'est du Burkina Faso, a confié hier à Omega plusieurs sources locales. Selon les sources de Omega, deux volontaires pour la défense de la patrie font partie des victimes. L'attaque a également fait 7 blessés évacués dimanche dernier par hélicoptère à Fadangourma, capitale de la région de l'Est. Les quelques 700 personnes qui restent encore dans le village de Tambarga sont sans provisions alimentaires parce que plus rien n'y entre depuis longtemps. Ne sachant plus quoi faire, une partie de cette population s'est fait escorté par des VDP pour se rendre à Namouyori pour cueillir des mangues, indique le quotidien L'Observateur Palga et confirmé par les sources de Omega. C'est sur le chemin du convoi qu'ils ont été victimes d'attaques terroristes. Insécurité toujours, on en sait un peu plus sur les écritures en français et arabe découvertes hier dans certains établissements privés et publics de la ville de Banfoura. Le ministère en charge de l'éducation nationale annonce dans un communiqué que les messages libellés en langue arabe appellent à la fermeture des établissements non islamiques et qu'il s'agit de menaces contre le système éducatif burkinabé. Tout en condamnant cette nouvelle tentative d'attaque contre l'école burkinabé, le ministère en charge de l'éducation nationale rassure les populations et l'ensemble des acteurs du système éducatif que les autorités administratives, régionales et centrales suivent attentivement l'évolution de la situation sécuritaire, peut-on lire dans le communiqué du ministère qui appelle les populations à garder le calme et à ne pas céder à la panique face à ces actes d'intimidation. Cette autre actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en ce moment même, nos confrères du quotidien, nos confrères du journal Le Reporter, dans sa parution d'hier, faisait de grandes révélations sur les rémunérations des membres du gouvernement de la transition. Le journal confiait en effet que le Premier ministre a déjà encaissé plus de 5 millions de francs CFA et les autres membres du gouvernement, plus de 2 millions de francs CFA. Une révélation qui a fait réagir Jacques Sosten Dingara, secrétaire général du gouvernement, qui confirme l'information et explique que ces rémunérations sont faites sur des bases légales. Écoutons Jacques Sosten Dingara, il était l'invité du journal de 20h à la télévision nationale.
Pour l'adapter bien sûr au, par rapport à la charte de la transition qui exigeait qu'il faut un salaire unique pour tous les membres du gouvernement. Et par rapport à la Constitution qui dit que quand vous êtes fonctionnaire nommé ministre, vous êtes en détachement et que vous ne pouvez pas percevoir un salaire en deçà de ce que vous percevez dans votre emploi d'origine. Et pouvoir harmoniser aussi les salaires pour l'ensemble donc de ces ministres, fallait naturellement, courageusement, évoluer et changer effectivement ce test et le rendre beaucoup plus dynamique, comme je l'ai dit, et relié à la grille des agents de la fonction publique, étant entendu que les ministres qui viennent d'être nommés sont des agents de la fonction publique. Voilà un peu l'explication que l'on pourrait donner. C'est un décret qui est effectivement qui était signé. Et comme je l'ai dit, l'avantage de ce décret, c'est qu'aucun ministre ne veut négocier un contrat, aucun ministre ne veut négocier son salaire. Ça, c'est vraiment une avancée significative par rapport donc à l'ancien décret donc de 2008. Et vous adhérez donc tous les fonctionnaires. Et le deuxième avantage, c'est que ce décret, il est dynamique. Donc il est totalement relié à la grille donc des agents de la fonction publique et suivra l'évolution de cette grille en fonction donc de ce que chacun des agents de la fonction publique percevra donc comme salaire.
Comme salaire. Alors donc ce qui veut dire que ces informations entre griffes sont fondées
et effectivement c'est réel, c'est vrai, avec des bases effectivement légales et reliées aussi à cette grille donc salariale de la fonction publique. Alors ce que on voudrait les rassurer, c'est d'abord que aujourd'hui il faut que l'on aille sur des bases légales. Et comme je l'ai dit, depuis un certain temps, cette question de la rémunération des hautes personnalités fait beaucoup donc de débats autour de ça. Et l'ancien test qui est dépassé, il fallait courageusement, effectivement. Et je pense que l'article 19, donc la charte de la transition, c'est au regard donc du diagnostic qui est fait et de cette question, justement, de disparité, je ne vais pas dire d'iniquité, mais en tout cas, de traitement de deux fois deux mesures par rapport donc aux autres personnalités qui étaient posées. Il fallait d'abord élever l'iniquité. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, vous avez un contrat et un salaire unique pour tous les membres donc, du gouvernement.
Parlons à présent de l'affaire de la journaliste de la chaîne de télévision TV5 Monde expulsée le 14 mai dernier. Le Conseil supérieur de la communication, CSC, dans un communiqué rendu public hier, dit regretter et condamne l'expulsion de la journaliste de la chaîne de télévision TV5 Monde lors de la conférence publique co-organisée à Ouagadougou par la Coalition des Patriotes Africains, COPABF et Urgence Panafricaniste. La manifestation, loin d'être une activité privée, a été organisée dans un espace public ouvert. Par conséquent, rien ne devrait pouvoir interdire à tout journaliste, quel qu'il soit, de s'y rendre pour une couverture médiatique conformément à la Constitution burkinabé qui garantit les libertés d'expression et de presse ainsi que le droit à l'information, a terminé le Conseil supérieur de la communication. Direction Perquoi à présent, l'équipe de sauvegarde de la mine de Perquoi a effectué hier une plongée pour constater la présence de l'ultime chambre de refuge qui pourrait abriter les 8 mineurs portés disparus. Si certains avaient évoqué l'ouverture de la porte de la dite chambre, le commandant adjoint de la 3e compagnie de la BNSP, Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Koudougou, le lieutenant Stéphane Nana, affirme que la chambre de refuge n'a pas été ouverte. Écoutons le lieutenant Nana.
La chambre n'est pas inondée. On n'a pas pour objectif actuellement de l'ouvrir. Donc la chambre est toujours submergée, donc c'est à peu près la toiture qui est un peu visible. Voilà, ça c'est un peu visible. Donc on n'a pas pu ouvrir la chambre. C'était pas notre objectif même d'ailleurs, puisqu'il y a toujours de l'eau et de la boue qui va nous empêcher de le faire. On n'a pas pu observer à travers la vitre pour voir l'intérieur de la chambre. Je vais demander aux uns ou aux autres de garder leur sérénité. Voilà, s'il y a autre information, s'il y a des informations, de nouvelles informations, on va vous les transmettre.
L'État burkinabé accélère la dépolitisation de l'administration publique pour sceller cette Ambition, un atelier national de validation du draft de l'avant-projet de loi portant dépolitisation de l'administration et de renforcement de la méritocratie au Burkina Faso a été organisé hier à Ouagadougou. Compte rendu signé Moumouni Yaro.
Mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut, loin des nominations de complaisance, de récompenses politiques et la vision de la loi dont l'étude a été commanditée en 2015 pour voir les manifestations de la politisation dans l'administration politique burkinabé. Avant d'y arriver, il faut recueillir les recommandations des uns et des autres pour les soumettre aux décideurs. D'où cet atelier de validation de l'étude actualisée cette année 2022. Étienne Kabore, secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance.
Il y a plusieurs manifestations de la politisation dans notre administration publique. La première manifestation, c'est l'existence de cellules ou de regroupements à caractère politique. La deuxième manifestation, c'est la visibilité de signes distinctifs de partis politiques. Nous avons également les nominations ou les recrutements à caractère politique.
La loi promeut donc le mérite dans l'administration publique. Elle y condamne également toute activité politique. Étienne Kabouri.
À travers cette loi, nous allons classifier les fonctions dites politiques et les fonctions dites techniques. Et à ces fonctions techniques, nous allons définir un minimum de conditions pour y accéder en termes de qualification diplômante, en termes d'expérience, pour que quand vous êtes nommé à un poste, que ce soit sur la base de vos compétences et non sur la base de votre appartenance politique. Donc, nous voulons d'une administration publique républicaine, dépolitisée.
Des sanctions sont prévues contre les personnes et les partis politiques qui vont enfreindre à cette loi. Elles vont des amendes, des emprisonnements ou licenciements.
Hier a eu lieu à Ouagadougou la cérémonie d'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités des chargés de suivi et évaluation des statistiques de l'alphabétisation non formelle des pays membres de la Fondation 40A. L'objectif global est de renforcer les capacités des acteurs dans la production des données statistiques sur les sous-secteurs de l'éducation non formelle. Reportage signé Bethany Bambara.
23 agents de l'éducation nationale à l'école de la production des statistiques sur le sous-secteur de l'éducation non formelle. Cet atelier qui s'est ouvert ce lundi à Ouagadougou et qui se poursuivra jusqu'à mercredi permettra d'outiller ces acteurs sur la collecte, l'analyse et le traitement des données afin qu'ils puissent être en mesure de produire des éléments fiables. Jean-Noël Tagnabou, chargé des missions du ministère en charge de l'éducation.
Tout ce qui va être fait, mais globalement, la question d'analyse des données, je dirais d'ailleurs la question de récolte des données, de l'analyse, de la présentation, afin de générer un rapport qui permet de comprendre comment se porte le sous-système de l'éducation non formelle sera fait. Bref, il s'agit de donner toute l'armature nécessaire aux chargés de suivi et évaluation pour que, à terme, les données qui seront récoltées puissent être facilement interprétées et exploitables.
Cette activité est accompagnée par la Fondation 40A qui a pour mission principale d'assister les ministères en charge de l'éducation nationale de ses pays membres. Kira Sey Zio, directeur non formel Point Focal 40A.
40A est un organisme international de droit public qui a pour rôle d'appuyer les différents États, notamment à travers les ministères en charge de l'éducation non formelle, pour améliorer les offres d'éducation non formelle. C'est d'accroître donc l'offre en éducation non formelle, c'est d'améliorer la qualité donc de l'éducation non formelle et c'est mobiliser tous les acteurs donc autour des idéaux donc de l'éducation non formelle.
Selon le chargé des missions, les statistiques actuelles de l'éducation non formelle présentent un bilan non satisfaisant au regard du nombre d'enfants non scolarisés. Le taux national d'alphabétisation n'atteint toujours pas 50% au Burkina Faso.
La célébration en différé du 1er mai de la radio-télévision Omega a pris fin par un dîner-gala dimanche dernier dans l'enceinte du centre commercial Laïco. Au cours de cette soirée dédiée au personnel, le directeur général a encouragé toute l'équipe d'Omega Média qui, dit-il, œuvre au quotidien pour le succès du média. On note aussi à cette soirée gala plusieurs prestations d'artistes. Pierre Badolo pour le compte-rendu.
Une soirée gala pour clôturer en beauté la célébration en différé du 1er mai des 48 heures des agents d'Omega Média. Ils sont sortis en nombre pour l'honneur qui leur a été fait. Des pas de danse ont été esquissés dans la gaieté. Des discours n'ont pas manqué à ce rendez-vous. Aimé Kabore, délégué du personnel.
Omega, ce sont des reportages qui nous ont permis de sauver des vies, qui ont permis à certains de prendre l'ascenseur social. J'en veux pour preuve la petite Aïcha qui vivait avec une balle dans les poumons.
Le directeur général, lui, a tenu à féliciter le personnel pour le travail abattu au quotidien. Il les a exhortés à plus d'abnégation. Wenzel Louis Houlon, directeur général d'Omega Média.
Je peux dire que du point de vue crédible, confiance, je suis presque certain que nous avons ce leadership. Cette télévision que nous avons pris au grand zéro, à dire avec câblage à même, est aujourd'hui une fierté. Sujet à la une, angle d'attaque, unité spéciale de grand reportage, je vous demande de vous applaudir. Merci et à bientôt pour d'autres défis. Le travail ne fait que commencer et je m'excuse pour la pression. Merci.
La gérante du média Omega a elle aussi reconnu le sacrifice des agents. Elle en a témoigné l'utilité de l'honneur porté à ses agents qui n'hésitent pas quant à la valorisation de l'éthique et la déontologie et surtout le slogan d'Omega Média. Aminata Bari, gérante d'Omega Média.
Aujourd'hui, c'est l'occasion aussi pour Omega Média de dire merci à son personnel, d'expliquer à son personnel que sans son personnel, il n'y a pas le média Omega. Et sans son personnel, il n'y a pas d'auditeur Omega. Alors donc, c'est aussi l'occasion de dire merci à l'auditeur Omega, parce que l'auditeur Omega nous prête son oreille. Le téléspectateur Omega nous prête aussi ses yeux, nous prête son attention et son temps. Alors nous leur disons merci et nous expliquons aux travailleurs combien ils sont importants dans la chaîne, combien ils occupent la meilleure place de la chaîne dans l'entreprise. Sans hommes, il n'y a pas d'entreprise. Le bien matériel ne peut rien faire sans les humains.
Ces 48 heures de célébration en différé de Radio Omega ont été meublées par des activités telles que une séance d'aérobic, un match de football entre Omega et ses auditeurs, et le tout couronné par la soirée gala riche en prestations d'artistes.
Hors de nos frontières, le gouvernement malien a annoncé hier avoir déjoué un coup d'État la semaine dernière, orchestré par, dit-il, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers anti-progressistes maliens. Écoutons donc un extrait du porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maïga.
Dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressiste malien a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a échoué grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l'État, dont l'objectif visé est d'entraver, voire annihiler, les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Le gouvernement de la République du Mali rassure que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme.
L'invité du jour. L'invité du jour.
1,13 milliard de personnes souffrent d'hypertension dans le monde. À l'occasion de la Journée mondiale de l'hypertension artérielle, le professeur Lucie Nébier, cardiologue, invite les patients à se faire dépister et à adhérer au traitement. Elle répond aux questions de Valérie Guéret.
Professeur Lucine Ibier, bonjour.
Bonjour à Radio Omega.
L'hypertension artérielle, qu'est-ce que c'est?
Il s'agit d'une élévation de la pression artérielle, donc la pression dans les artères. Communément, nous l'appelons HTA. Pour l'évaluer, il faut donc utiliser le tensiomètre, qui permet de prendre les deux chiffres, à savoir le premier chiffre qui est la tension artérielle systolique et la tension artérielle diastolique.
Quelles sont les causes de l'hypertension artérielle?
Il y a plusieurs causes. Il y a d'abord les causes héréditaires, où on hérite d'un des parents, c'est le plus fréquent. Et habituellement, lorsqu'on fait un bilan, on ne trouve pas grand-chose. Maintenant, il y a les autres causes qui se rajoutent, qui peuvent être des causes toxiques, des causes de rétrécissement de certaines artères des reins, d'autres causes éventuellement d'utilisation intempestive de certains produits. Donc les causes qu'on peut éradiquer ou on peut essayer de traiter, ils font que 5, maximum à 10%. Et là, il faut rechercher les causes rénales, surrénaliennes, il faut éventuellement chercher une intoxication par la consommation excessive de certaines friandises et d'autres aliments. Maintenant, les 90 à 95%, c'est les causes héréditaires et que l'on ne peut pas donc traiter. C'est-à-dire le traitement reste permanent et c'est ce que vous n'aimez pas entendre lorsqu'on dit que le traitement est à vie. Mais malheureusement, quand on n'a pas retrouvé une cause, on ne peut pas arrêter le traitement, donc le traitement reste permanent à vie.
On parle d'hypertension et d'hypotension artérielle. Comment ça se passe concrètement?
On revient toujours à nos normes. On dit que quelqu'un est hypertendu lorsqu'on atteint le premier chiffre déjà, 140, c'est-à-dire 14 cm de mercure ou 140 mm de mercure. Et lorsque le deuxième chiffre aussi, parce qu'on peut avoir juste une hypertension du deuxième chiffre, lorsque l'on dépasse 90 mm de mercure ou 9 cm de mercure. Donc 14-9. Ce que communément les gens utilisent, ou 140-90, lorsqu'on dépasse ces normes, on devient hypertendu. L'hypotension artérielle, par contre, c'est le contraire. C'est des gens qui ont des tensions très basses, donc souvent inférieures à 10, inférieures à 7 ou 8 de l'autre côté, mais c'est surtout la systolique dans l'hypotension artérielle qui leur donne des malaises. Et là, nous ne considérons pas vraiment comme des maladies, parce qu'une hypotension artérielle, c'est vrai, elle baisse le tonus, elle fatigue, mais ce n'est pas une vraie pathologie que nous traitons couramment.
La consommation de certains aliments, comme les bouillons, favorise-t-elle l'hypertension?
Je pense que ça a été un gros débat, mais ce n'est pas tellement le contenu, parce que le contenu, parfois, c'est plus ou moins bien fait selon les industries, mais c'est surtout la concentration en sel. En Afrique, on voit qu'on met les bouillons, on met le sel, on met tout. Et en fait, c'est la concentration du sel qui pose problème. Alors que comme eux, ils sont déjà concentrés en sel, il faut que les femmes fassent attention ou bien diminuer la quantité de sel.
Et quelles sont les conséquences de l'hypertension?
On a plusieurs conséquences. Les plus graves, c'est d'abord l'accident vasculaire cérébral. La tension monte, la personne se paralyse d'un côté. Ça, c'est vraiment l'AVC classique. Nous avons deuxièmement l'insuffisance cardiaque, parce qu'à force de pousser, après le cœur est fatigué et il fait une insuffisance cardiaque. Troisièmement, il peut atteindre les yeux. On peut avoir brusquement une cécité due à une pression artérielle trop élevée. Quatrièmement, on a les insuffisances rénaux. Ça, c'est le plus fréquent.
Le 17 mai, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'hypertension. En quoi cette journée mondiale peut aider à lutter contre la maladie?
Toujours sensibiliser les gens. Il faut qu'ils se dépistent. Il faut qu'ils prennent leur tension. Et le pire, c'est de ne pas prendre la tension, savoir que c'est élevé et puis se cacher. Ou bien se dire qu'on ne prend pas les produits. Mais surtout, accepter de se faire traiter lorsqu'on dit que la tension est élevée. Il faut que les gens acceptent. Voilà. Donc cette campagne-là, vraiment, c'est de faire mieux connaître l'hypertension.
Comment se fait le traitement?
Le traitement, d'abord, il faut faire le bilan pour voir, en dehors de l'atteinte hypertension qui est élevée, est-ce qu'il y a déjà des complications? C'est pour ça que vous nous verrez en premier bilan où on regarde un peu partout, on fait les fonds d'œil, on fait les échos des reins, on fait les échos cardiaques. C'est pour déjà cerner la maladie et ses complications déjà. Alors, dès qu'on a déjà fini ça, on essaie de voir maintenant si c'est une hypertension qui vient juste sans aucune complication, juste un comprimé. Maintenant, il y a tellement de produits, on peut les équilibrer comme on veut, on peut les mélanger. Maintenant, de plus en plus, il y a des mélanges fixes qu'on peut mettre de façon initiale et surveiller progressivement la pression artérielle.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Fidèle Compaoré à la présentation. Je suis Abdoulkader Kounaté. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.
Et tout de suite, des infos. Tout de suite, des infos. Tout de suite, des infos.